Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là. Je vous accompagne au cours de ce 30 minutes de C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, une émission toute spéciale autour du court-métrage, du dernier court-métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin, Prends-moi, un film qui parle d'une réalité que l'on ne connaît pas souvent, qui est ignorée malgré nous, peut-être parce qu'on se ferme les yeux, parce que ça nous gêne, une réalité qui est incomprise, parfois tabou, la sexualité des personnes handicapées et qui vivent en centre hospitalier de soins de longue durée. Pour en parler avec moi, Maxime Despomerleau, Alexandre Valran, qui sont acteurs dans le film. Également Zoé Vaux-Anthony, sexologue spécialisée avec une clientèle de personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Et Alexandra Méthode, travailleuse sociale au CHSLD Paul-Émile Léger du C3S Jeanne-Mance. On les rencontre dans quelques instants. Maxime, Alexandra, Zoé, bonjour.
Bonjour.
Et là, ben, on ne veut pas entretenir un cliché, mais on attend toujours après les hommes. Alexandre s'en vient de ce pas, Alexandre Valran. On est là pour parler de ce film « Prends-moi », film d'Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin. Le film a été tourné de façon plutôt rapide, 2 jours de tournage. Ça a été tourné au centre Paul-Émile Léger, un centre où vous travaillez, Alexandra Méthode. Et c'est un centre qui offre un service assez particulier depuis 10 ans, depuis 2004, une chambre d'intimité. C'est quoi ça?
Exactement. Bien, une chambre d'intimité, c'est un local où, bon, il y a un téléviseur, une place pour prendre un repas, une petite table. Puis, il y a aussi 2 lits qui peuvent se coller de façon sécuritaire, où les gens peuvent recevoir une mise au lit, chacun dans le lit. On colle les lits ensemble. Et puis ensuite, les gens, les préposés quittent le local. Et puis, voilà, ça permet l'intimité entre les deux personnes qui sont au lit.
Tout le monde y a droit?
Oui, tout le monde y a droit. Oui.
Est-ce qu'il faut absolument être un couple?
Il faut être un couple, mais qu'est-ce qu'un couple si ce n'est que 2 personnes consentantes?
Qui ont envie de se rapprocher, voilà, de façon intime.
Exactement. Tout le monde y a accès dans la mesure où le consentement des personnes est évalué. Bon, consentement libre et éclairé, c'est-à-dire que personne n'est forcé, libre, puis de façon éclairée, que les gens sachent à quoi ils disent oui. Voilà.
Les couples doivent absolument passer devant votre bureau pour avoir accès à cette chambre-là. Qu'est-ce que vous leur demandez, Alexandra? C'est quoi les questions pour être certaine que ça va bien se passer, qu'ils sont aptes?
Bien, c'est ça. En fait, il y a aptes à consentir. Dans le fond, 2 personnes adultes aptes, il y a des pistes de réflexion qui leur sont soumises. Le couple doit se présenter à moi 1 semaine avant le rendez-vous intime. Puis, c'est pas des questions auxquelles ils doivent répondre, mais c'est plutôt des pistes de réflexion pour qu'eux puissent parler ensemble. Des fois, exemple, qu'est-ce qu'ils entrevoient comme rencontre? Est-ce que c'est de la sexualité ou c'est de l'affection, sensualité, partage de repas. Des fois, on n'a pas les mêmes attentes. Et puis, bon, je leur suggère d'en parler. Quels moyens de contraception ils vont utiliser. Si, bon, particulièrement par rapport aux handicaps ou limitations physiques, est-ce qu'il y a des positionnements qui sont possibles ou impossibles pour eux? Ça serait bon qu'ils en parlent avant. Est-ce qu'ils ont des plaies? Est-ce que, compte tenu de leur condition physique, est-ce qu'ils pensent devoir consulter le médecin? Mm-hmm. Puis ensuite, en fait, aussi, les limites du service, ouais, leur
parce
sont...
Parce qu'il y en a, hein?
Oui, certainement. Les limites du service leur sont expliquées, comme quoi c'est une mise au lit simple, transfert au lit, puis ensuite, les préposés s'en vont, et puis reviennent peut-être 1h30 après, et puis offrent la toilette partielle et la remise au fauteuil. Donc, c'est pas, y a pas de positionnement qui est fait à la chambre l'entre-nous. C'est comme ça qu'on l'appelle, mm-hmm, notre chambre d'intimité. Donc, c'est ça.
C'est plus beau que simplement chambre d'intimité. Dans le film, il y a trois acteurs. Il y a Maxime Despomerleau, Alexandre Valran, Mani Soleil-Manlou. Mani qui interprète un infirmier, un préposé aux bénéficiaires. Et pour les gens qui visionnent le court-métrage pour la première fois, qui sont peut-être pas habitués d'entendre parler d'un tel sujet, on s'identifie beaucoup à lui. Ça passe beaucoup par son regard, par sa façon d'être mal à l'aise, d'avoir à rapprocher ces deux corps-là, d'avoir à essuyer le sperme. Donc, il y a tout cet intérêt-là. Et là, Zoé, cette question-là, elle est pour vous, Zoé Vourantoni, sexologue, parce qu'on se demande, est-ce que les gens qui travaillent en milieu hospitalier, le personnel soignant, est suffisamment prêt à gérer ces malaises-là, suffisamment prêt aussi à avoir ce contact-là avec des personnes qui vivent avec un handicap et qui ont envie d'avoir une sexualité?
Je crois que non, malheureusement. Mais déjà là, juste d'aborder la sexualité, de questionner qu'est-ce qu'ils vivent. Je donne nombreuses formations par année à toutes sortes d'équipes qui souhaitent ouvrir le sujet, qui reconnaissent l'importance de parler tout simplement de la sexualité et qui ne se sentent pas outillés, qui se sentent gênés et qui veulent amener des changements soit au programme ou à l'équipe, qui viennent chercher des outils. Donc, on pourrait imaginer qu'encore plus loin qu'effectivement d'être dans cette intimité-là. Donc, moi, c'est pas ma réalité de travailler dans ce centre-là où il y a la salle d'intimité, mais je pourrais imaginer la réticence ou à quel point ça peut déstabiliser le personnel qui peut-être n'est pas prêt ou si j'imagine qu'il y a une formation pour les aider à ce niveau-là, juste de voir la réaction de médecins intervenants avec qui moi je peux travailler et qui vont hésiter à simplement ouvrir, dialoguer sur le sujet de l'intimité.
Selon vous, Alexandra, vos collègues sont-ils suffisamment prêts?
En fait, il y a une formation qui leur est donnée, une mini-formation, si on peut dire, sur la fonctionnalité de la chambre. Comment, bon, c'est sûr qu'un lève-personne, ça demeure les mêmes manipulations. Mais pour ce qui est pour le lit, là, c'est différent. Mais aussi, ce qu'on demande aux préposés, comme je vous dis, c'est une mise au lit simple. Il n'y a pas de positionnement. Donc, on ne demande pas aux préposés de faire des tâches différentes de ce qu'ils sont appelés à faire aux unités. À ce moment-là, c'est ça. C'est certain que des fois, ça peut heurter les valeurs, mais il y a du soutien qui est offert, comme quoi on parle avec eux. Puis souvent, ils ne sont pas témoins de quoi que ce soit passe. À ce moment-là, c'est souvent plus dans l'imaginaire. C'est l'imagination qu'on se fait de qu'est-ce qui peut se passer. Puis c'est pas nécessaire de s'imaginer. On peut juste donner le service, la mise au lit, se retirer. Puis voilà, on sait pas ce qui se passe non plus.
Oui, parce que, et c'est important de le mentionner, je pense, le film est une fiction. Ce n'est pas un documentaire. Donc, ça se passe pas tout à fait comme ça au Centre Paul-Émile Léger. Et d'ailleurs, Maxime...
Oui.
Parce que j'ai envie aussi de vous entendre, même si Alexandre n'est pas arrivé, on peut commencer à jaser, nous. Le film est une fiction, ça ne ressemble pas à votre réalité. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes en fauteuil roulant, donc avec une limitation fonctionnelle. Est-ce que ça peut s'apparenter à votre réalité? Tu te convoies l'histoire, n'en prends-moi?
Non, c'est vraiment... En fait, Alexandre va être plus éloquent que moi sur cette question-là, mais c'est vraiment très loin de ma réalité. Il faut le dire aussi, en CHSLD, si on habite là, c'est parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'heures de soins par jour.
C'est pas votre cas.
Mm-hmm. C'est pas mon cas. Moi, je reste en appartement. Je suis quand même extrêmement autonome, malgré le fait que je circule majoritairement en fauteuil roulant. Et j'ai pas, je rencontre pas non plus ces obstacles-là par rapport à l'intimité et à la sexualité. Donc, pour moi, c'est vraiment un rôle. Mis à part le fait que c'est mon corps qui est dévoilé,
exposé,
qui est exposé et qu'on n'a pas tenté non plus de l'embellir ni de dissimuler non plus le handicap. Donc,
mais c'est pas
laid
du tout, hein, Maxime?
c'est toujours bon à se faire dire. mais tu sais, donc j'ai des cicatrices, j'ai certaines déformations, donc c'est pas quelque chose qui a été dissimulé, c'était pas l'objectif non plus. Donc, mis à part ça, qui est très, très proche de moi, le reste, c'est vraiment, C'est pas ma réalité. Mais ça, je pense qu'Alexandre va pouvoir davantage en parler.
Quand il va arriver, on l'attend bien sûr avec grande impatience, mais il y a une anecdote quand même intéressante par rapport à ça. Anaïs Barbeau-Lavalette disait qu'auparavant, dans ses courts-métrages ou ses longs-métrages, mais du moins ses projets du passé, elle ne savait jamais comment aborder les scènes où l'on trouve de la sexualité, des scènes avec de sexe, finalement. Et ce film-là a été pour elle un bel apprentissage. Elle a appris, finalement, elle dit « Maintenant, je suis rassurée, maintenant, je sais comment tourner les scènes de sexualité grâce à Prends-moi. » On parlait de ce pan de la réalité-là qui n'est pas le cas pour tout le monde. Maxime, vous disiez « Moi, je suis autonome, je vis en appartement. » Zoé, vous, votre clientèle, les gens que vous rencontrez, j'imagine qu'ils vivent leur sexualité de plein de façons, mais c'est quoi les obstacles qu'ils rencontrent, que vous entendez quand vous les rencontrez, qu'ils vous consultent?
Ça dépend énormément de leur degré d'autonomie. Les gens qui viennent me rencontrer, il peut y avoir des gens qui reçoivent énormément de services, donc moins d'autonomie, jusqu'à une pleine autonomie. Donc, les besoins peuvent varier, mais souvent, le plus grand obstacle, ça va être avec eux-mêmes, donc de se donner le droit, de ne pas être gêné. J'ai récemment travaillé avec une jeune femme qui se déplaçait également en fauteuil et qui réalisait qu'elle ne se donnait pas le droit de demander à ses partenaires de se placer différemment ou de l'aider avec certaines positions sexuelle ou que sa gêne d'exposer son corps l'empêchait de profiter peut-être d'avance qu'elle pouvait recevoir. Donc, elle a fait un grand travail avec elle-même qui a changé du tout au tout sa sexualité. Mais c'est sûr que vivre avec une limitation physique, on peut avoir de la difficulté des fois à rencontrer, des fois à s'intégrer. Donc, il faut être un peu plus brave. Il faut montrer aux gens qui nous sommes. Puis après ça, ils vont nous découvrir. Puis également, juste la limitation physique de comme on a mentionné, peut-être certaines positions qui sont pas tout à fait possibles ou des difficultés lors de la masturbation. Donc, selon le degré de l'affection physique, il peut réellement avoir des obstacles à l'exécution, mais souvent, c'est davantage soit d'entrer en contact ou soit avec soi-même pour se permettre de vivre cette sexualité-là.
Alexandra, au Centre Paul-Émile Léger du C3S Jeanne-Mance, est-ce qu'il y a le service d'une sexologue ou d'un sexologue?
Il y a malheureusement pas de service de sexologue. Il y a eu des stagiaires. On a eu payé par la formation pendant environ un an une sexologue qui était embauchée, bon, payée par la fondation du C3S Jeanne-Mance. Actuellement, il n'y en a pas. Dans les pistes de réflexion, c'est toujours quelque chose que je propose aux gens, soit de revenir pour du feedback, bon, pour voir, ou s'ils veulent avoir une référence auprès d'un sexologue. Puis, j'ai bien hâte de rencontrer ou de demander les coordonnées à Zoé, comme ça. c'est pas tout le monde, je pense, c'est pas tous les sexologues là, qui ont cette expérience-là auprès des personnes avec des limitations physiques. Puis, j'avais déjà fait des recherches auprès de l'ordre ou du regroupement, là.
Mais on vous mettra en contact.
Parfait.
De toute façon, on va tous se revoir demain parce que je tiens à dire que le film sera projeté demain en grande première québécoise dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. À 17h, il y aura une discussion par la suite qui succédera à la projection avec Alexandra, avec Zoé, avec vous, Maxime, avec Alexandre qui vient d'arriver. J'y serai aussi, donc on pourra se rencontrer. Je reviens avec vous, Alexandra, pour laisser peut-être Alexandre respirer un tout petit peu. Et Alexandre, Merci. Votre micro est loin, donc on va peut-être demander à Yannick de revenir le placer, s'il vous plaît. Yannick, le micro est peut-être loin d'Alexandre. Alexandra, quand ça arrive, Zoé le disait tout à l'heure, on peut pas mettre le condom de façon convenable, on peut pas se placer de façon convenable. Qui est là pour remédier à ça? On le disait tantôt, il y a des limites au service. Les préposés, les infirmiers n'ont pas nécessairement à faire ça. Peut-être que certains le font, mais bon, c'est pas écrit là, dans les définitions de tâches. Il arrive quoi dans ce temps-là?
Bien, en fait, c'est ça. Au niveau du condom, ce qu'on demande aux préposés, c'est... ils peuvent ouvrir l'enveloppe du condom et le déposer à côté du lit. C'est la seule chose qui est permise de faire. C'est ça, je pense que les gens, bon... habituellement, les gens sont satisfaits de leur expérience à la chambre, entre nous. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est ce que je peux dire.
Alexandre Valrand, bonjour.
Bonjour.
Pas trop essoufflé?
Pardonnez-moi du retard.
On vous attendait patiemment. Oui. Alexandra Valran, vous êtes acteur dans le film Prends-moi.
Oui.
Vous êtes atteinte de paralysie cérébrale. Vous vivez. Vous êtes résidente dans un CHSLD. Et vous faites un petit peu partie de la jeunesse de ce film-là parce que Anaïs Barbeau-Lavalette faisait de la recherche pour un projet. Elle vous a rencontré un petit peu par hasard. Vous avez discuté de sexualité. Elle vous a approché pour le film. Vous avez accepté parce qu'on peut vous y voir, parce que c'est important pour vous, j'imagine. Est-ce que, entre résidents, vous parlez de sexualité, vous parlez de la chambre d'intimité?
Disons que depuis que le film est en question, que plusieurs ont le goût de le voir, on en parle plus. Soit à table, je leur demande comment vivez-vous votre sexualité, mais sinon, c'était un sujet très tabou en CHSLD. Les gens n'ont pas le goût de parler de ça parce qu'ils ne peuvent pas vraiment la vivre correctement.
Vous l'utilisez, vous, la chambre d'intimité, Alexandre?
Non, malheureusement, je suis encore célibataire.
Oui, mais ça, c'est un point intéressant, Alexandra. Est-ce qu'on peut avoir recours au service d'une travailleuse du sexe et utiliser la chambre d'intimité?
En fait, il faut savoir que le cadre de référence, parce que bon, la chambre d'intimité vient avec une politique qu'on appelle le cadre de référence sur l'expression de la sexualité des résidents. Donc, ça ne se limite pas à la chambre d'intimité. Les gens peuvent recevoir des partenaires dans leur chambre quand ils ont des chambres privées. Et puis, ben nous, c'est ça, le choix du partenaire demeure un choix qui est personnel. Mm-hmm. Si les gens voudraient... On est ouvert à ce qu'il y ait des personnes de l'extérieur avec un résident qui demande les services de la chambre d'intimité. Et puis, à ce moment-là, en autant que la personne puisse collaborer au processus, ça va, c'est convenable.
Maxime, êtes-vous célibataire?
Oui.
Oh! Question vraiment indiscrète.
Je m'attendais pas à ça à 2h15 l'après-midi, mais c'est correct.
En fait, cette question pour aborder, et ça, j'avais vraiment envie de le faire avec vous, Alexandre et Maxime, cette différence dans la sexualité des hommes et des femmes. Alexandre, vous avez dit que vous aviez déjà eu vos recours à des travailleuses du sexe à différents sites. Ça s'est passé comment?
Mauvaise histoire, parce que ces sites-là sont jamais certains. Mm-hmm. Ces sites-là, on peut tomber sur des très bonnes personnes comme des très mauvaises qui veulent simplement profiter de vous. Étant donné que moi, j'ai des problèmes physiques, c'est souvent eux qui profitent de moi, malheureusement.
Maxime, des recours à différents sites de votre côté, ça se passe comment?
Non, moi, je suis pas une adepte de sites de rencontres. En fait, je suis juste pas game d'être là-dessus.
Ouais. Mais, moi non plus, personnellement.
Non, moi, c'est vraiment... ça va être des rencontres au hasard, là, des amis de des amis, dans des parties, dans des bars, dans des shows. Je comparais ça à vraiment une vie affective et sexuelle assez comparable à celle que mes amis vivent, que les filles de mon âge vivent, fin vingtaine, début trentaine. Puis donc, ça me faisait penser, tout à l'heure, on parlait de... Zoé, on parlait de ce qui peut être des obstacles, si on veut, une sexualité épanouie. Ouais. Puis moi, j'amènerais aussi l'aspect de... Oui, c'est vrai que ça dépend... Chaque personne, comment est-ce qu'elle se voit et sa relation qu'elle a aussi, sa confiance en soi, la relation qu'elle a avec son corps. Mais je pense que ça dépend aussi, entre autres, de différents facteurs et comme les obstacles architecturaux. Ouais. Si on sort du réseau scolaire, où est-ce que c'est un lieu de socialisation très important, ben il reste pas grand-chose d'accessible dans la ville pour pouvoir faire des rencontres, que ce soit des bars ou des cafés, des salles de spectacle ou même chez nos amis. La plupart de mes amis restent en appartement dans des deuxièmes, des troisièmes étages. Moi, justement, j'ai une certaine mobilité, Alex aussi, mais quelqu'un qui a plus de limitations, c'est plus difficile. Et moindrement, sans même habiter en CHSLD, si on est dépendant tout le temps du transport adapté ou si on a un préposé qui vient à la maison... Pour nous mettre au lit ou quelque chose, c'est certain que ça a une influence sur les relations intimes qu'on peut développer avec quelqu'un. Puis moi, en tout cas, j'ai toujours cet aspect-là. Il est probablement différent chez les hommes, mais moi, j'ai tout le temps en tête la question des critères de beauté et de la pression sociale exercée sur les filles. Puis je suis toujours dans un mode de comparaison où est-ce que j'ai le sentiment de partir désavantagée, en fait.
Déjà à l'avance.
Ouais.
Alexandre?
Oui. Désavantagée sur un point. Que les femmes aient peur de venir vers nous parce que mon ex-copine, elle a dépassé ce
stade-là,
d'être avec quelqu'un, de vouloir l'aider un peu plus, d'aller à différentes étapes, même dans la relation sexuelle, s'adapter à quelqu'un qui est handicapé, c'est difficile.
Oui, ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit, de patience. Je voudrais pouvoir l'éviter, mais je ne peux pas. On va en très courte pause et on revient dans quelques instants.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Eh bien, de retour avec cette discussion autour du dernier court-métrage d'André Turpin et Anaïs Barbeau-Lavalette, Prends-moi. Oui, merci Alexandra d'aider Alexandre avec les écouteurs, vraiment apprécié. Alexandra Méthode, travailleuse sociale au Centre Paul-Émile Léger du C3S Jeanne-Mance, Alexandre Valran, acteur du film Prends-moi, ainsi que Maxime Despomerleau, actrice, et Zoé Vaurantoni, sexologue qui travaille avec une clientèle de personnes handicapées, spécialisées avec cette clientèle. Avant cette courte pause, on a parlé, Alexandre, avec vous, Alexandre, de ce contact-là avec des sites de rencontres qui ont parfois un petit peu mal tourné. Et ma question s'adresse à Zoé cette fois. Comment on peut éviter les abus sexuels, les abus physiques, la violence auxquelles les personnes handicapées s'exposent sur ces sites-là?
Il n'y a pas de garantie, je pense. Comme Alexandre disait, il y a des bonnes personnes puis il y a des moins bonnes personnes. Donc, moi, les gens qui vont venir discuter avec moi, qu'ils réfléchissent à cette possibilité-là, soit de rencontrer salon de massage, travailleuses du sexe ou sur des sites de rencontres, il y a toujours un risque. Donc, l'important, c'est de briser le plus possible l'isolement, de ne pas faire seul, si c'est avec travailleuses ou site de rencontre, parler avec la personne avant, se rencontrer dans un lieu public, informer des gens de notre réseau de cette rencontre-là, faire confiance à ses tripes. Trop souvent, les gens me disent « je le savais que j'étais pas bien, j'avais un mauvais feeling », faire attention aussi à l'anxiété, là, qui peut nous dire de rebrousser chemin, donc pas toujours facile de faire la distinction sur cette ligne-là. Même chose aussi lorsque peut-être les gens considèrent faire appel à une travailleuse du sexe, soit en salon de massage ou escorte, le plus possible de pas y aller seul. J'ai un jeune homme qui avait besoin d'un accompagnateur, puis on avait parlé avec son accompagnateur, son aisance, cette personne-là a été à l'aise pour se déplacer au centre avec lui. Donc, de s'assurer de pas rester isolé à l'intérieur de ça, il y a quelqu'un qui me disait justement en centre de soins qu'il avait invité une travailleuse de sexe dans sa chambre privée, mais elle avait demandé au préposé de passer, de cogner à sa porte dans une demi-heure, savoir si tout était correct. Ouais. Donc, il y a des stratégies qu'on peut utiliser, mais il n'y a aucune garantie. Malheureusement, il faut savoir qu'on choisit de se mettre dans une situation avec un risque potentiel et à nous de, le plus possible, discuter, faire des mises en garde. Je pense déjà avec la zone d'intimité, quelqu'un qui viendrait rencontrer avant. Donc, on peut sentir la personne, voir l'interaction, mais il y a toujours malheureusement un risque.
On sent peut-être aussi un petit peu plus en sécurité, étant dans un lieu contrôlé, encadré. Mm-hmm. Maxime, vous aviez envie de réagir là-dessus?
Oui, mais en fait, c'était juste un complément d'information. Il y a une étude canadienne qui a été faite dans les dernières années qui dévoilait que les filles, les femmes handicapées avaient 3 fois plus de risques de subir de la violence sexuelle que les femmes dans la population générale. Et pour les hommes, c'était 5 fois plus à risque.
Oui. Hey. Oui. Mmh. Alexandre, vous le disiez pendant la pause, vous abordiez cette question. Sortir dans les bars, c'est pas non plus si évident que ça pour vous.
Sortir dans les bars, moi qui fais qui a des oreilles assez fines et qui souffre de crise d'épilepsie, si je sors trop longtemps dans un bar, ça peut être nocif pour moi.
Ouais.
Donc, j'ai pas la tête à aller voir une fille, aller lui parler. Je suis dans mon monde quand je suis dans un bar parce que c'est d'essayer de survivre à la cadence.
Oui. Ça m'amène à réfléchir sur des programmes qu'on retrouve pas ici au Canada, en Europe notamment, donc des travailleuses du sexe qui sont formées, ou pas nécessairement des travailleuses du sexe, des gens qui sont formés pour accompagner des personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle dans leur sexualité. Ça n'existe pas ici. Alexandra, est-ce que vous en pensez quoi, vous, de ça? Est-ce que ça serait quelque chose que ce serait bien de voir apparaître ici?
Vous parlez des assistantes sexuelles. Ouais. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'opinion à donner parce que bon, je représente le C3S Jeanne-Mance ici actuellement. Je pense que c'est un beau débat que la société québécoise peut avoir puis qu'on a entamé ou qu'on entame, je ne sais pas.
Oui, et oui, qu'on entame justement avec ce film-là. Zoé, vous, votre opinion là-dessus sur les assistantes sexuelles?
Fait l'œuvre de maître discussion l'année passée. Ça a été un sujet populaire.
Oui, tout à fait. J'ai été
à de nombreuses reprises. Je pense qu'on n'en connaît pas assez. Je me questionne sur aussi les effets sur la personne ou le choix d'offrir ce genre de service-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'inconnus et aussi, c'est pas un sujet que je connais assez bien, mais je me questionne. Puis, surtout, qu'est-ce que j'entends, les assistants sexuels à la base, ça a été développé. Oui, ça existe en Europe, mais c'est parti d'un concept américain pour porter assistance à régler des troubles et des difficultés sexuelles pour des couples, donc dans une vocation temporaire. Moi, la population souvent avec laquelle je travaille, justement, avec la difficulté à rencontrer, avec une carence affective, il faut pas s'imaginer qu'ils s'attacheront pas aux personnes qui vont venir. Donc, là, on essaye de répondre à un besoin physique. Oui, les assistants sexuels vont parler d'affection et de tout, mais sans permettre l'attachement, le lien relationnel.
Eh bien, et c'est une discussion, et je vous coupe ici, Zoé, parce qu'il nous reste 30 secondes. C'est une discussion qu'on pourra continuer demain à 17h au cinéma Judith Jasmin, ancien cinéma ONF. Une discussion qui succédera à la projection de Prends-moi. Alexandre Valran, Zoé Vaux-Anthony, Alexandra Métotte, Maxime Despomerleau, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre générosité. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et on se reparlera demain. Kamal Salifou, merci beaucoup, tu es formidable. À demain! Bye-bye!
Merci.
Bye.